Seigneur notre Dieu, au moment où nous avons chanté tout à l'heure, feu du fondeur, je n'ai qu'un seul désir, être saint Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, au moment aussi où le thème de notre année c'est l'amour pour Dieu, la passion de Dieu, nous voulons te rendre gloire et t'honorer Seigneur pour le témoignage que nous venons d'entendre. Et au moment, Seigneur, où nous venons de partager ensemble le pain et le vin, reconnaissant encore ce que tu as fait pour nous, nous sommes frappés par ces paroles, Seigneur. Je voulais servir Dieu chaque jour de ma vie. Je veux servir Dieu chaque jour de ma vie. Nous sommes frappés aussi par ce témoignage de Jean et Laure qui nous parle d'audit intérieur, d'examen intérieur, de recherche de ta volonté. Et Seigneur, nous voulons ce matin, nous aussi, nous mettre sous ton regard pour une audite intérieure, pour avoir ce seul désir, feu du fondeur, nous laisser travailler par toi pour être saint, Seigneur. Ô Seigneur, visite-nous dans ce sens ce matin. Que ce soit ta parole encore qui nous interpelle ce matin, et non pas la parole des hommes, mais que Seigneur, ce soit ta parole, le miroir qui nous interpelle et qui nous révèle vraiment l'image que nous avons à tes yeux. Amen. Je suis frappé ces derniers temps de voir l'importance qu'il y a dans la littérature, dans ce qu'on lit, dans ce qui se publie à propos d'un thème qui revient de manière récurrente, l'Apocalypse, la fin des temps, le retour du Seigneur. Alors, je ne sais pas, peut-être, Catherine, Richard, vous qui êtes directement sur les premières lignes et qui voyez tout ce qui se publie, tout ce qui s'écrit, est-ce que c'est une fausse information, s'il y a une impression personnelle, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui s'écrivent à propos du retour de Jésus-Christ, de l'Apocalypse, de la fin des temps? Comme d'habitude. Ah, ok. Ça va. Lorsque Jésus fait son grand discours sur la fin des temps, il explique comment ça va se faire, comment ça va se passer, enfin, ce qu'on peut en comprendre, quand le royaume de Dieu va être établi sur terre, quand il y aura le retour de Jésus-Christ, et il fait référence à un exemple qu'il ne faut pas imiter, un exemple dont il faut se souvenir. Nous allons le lire, si vous le voulez bien, ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 17, nous allons lire du verset 31 au verset 34. Donc le long discours est fini et Jésus ponctue en disant « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. » Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Bien sûr, il n'a pas dû faire tout un discours. Les disciples, les apôtres qui entendaient ça, ils connaissaient l'histoire de Lot. On va revenir sur ça dans un moment, si vous le voulez bien. Je suis frappé dans le témoignage de Jean et de Laure, je suis frappé de cette recherche personnellement entendue plusieurs fois, cette recherche, cette prise de décision. Je l'avais dans les tripes, on a entendu. Je cherchais cette recherche, cette audite personnelle. Vous savez, dans les sociétés, régulièrement, on fait une audite. Une audite, c'est, vous savez bien, la société va avoir recours à quelqu'un d'impartial, quelqu'un de l'extérieur, un auditeur, qui va examiner le contenu de la société, le fonctionnement de la société, mais qui n'a rien à voir avec la société. Donc, il n'y a pas d'affinité de personne, il n'y a pas d'idée préconçue. En fait, l'auditeur, c'est celui qui a un canevas précis de référence, de normes, et il va regarder par rapport à ce qui se passe dans la société, comment ça colle avec le canevas de référence. Et puis, il va dire, ça va bien dans cette société, ou bien ça va mal dans cette société, ou bien c'est fichu dans cette société. Et vous savez qu'il y a des audits comme ça qui sont des audits préventifs, Il y a des sociétés qui peuvent se dire à un moment donné, tiens, mais où est-ce que j'en suis? Comment voir un petit peu comment on évolue depuis la dernière audite qu'on a faite? Ça, c'est une audite préventive, et il y a des audits curatifs. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent qu'il faut remettre quelque chose en question. Alors, on fait l'audit curatif, on va voir, est-ce qu'on est en danger, est-ce que c'est plus grave que ce qu'on croit. Je pense que nous sommes appelés à faire des audits personnels en tant que chrétiens, régulièrement, très régulièrement. Et je pense que, malheureusement, la vitesse à laquelle on vit, vous savez, toujours un peu avec la tête dans le pare-brise de tout ce qu'on doit faire, de tout ce qu'on fait, de tout ce dont on s'occupe. Je pense que on traîne à faire les audits. J'ai l'impression que souvent, en début d'année, ou en fin d'année, on fait un peu le bilan des choses qui n'étaient pas bien, puis on refait un bilan des choses qu'on va changer, et puis à part ces deux semaines-là de la fin de l'année et du début de l'année, le reste de l'année, on court sur notre dynamique, dans notre force, folle course. Et j'ai l'impression aussi que quand on ne fait pas d'audit personnel, rapidement, on commence à avoir des habitudes de vie. Rapidement, ces habitudes de vie peuvent devenir des mauvaises habitudes de vie. Rapidement, ces mauvaises habitudes de vie peuvent changer notre comportement. Parfois même que nous, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte, mais les autres autour de nous, ils le voient. Je pense qu'on a deux raisons souvent, ou deux mauvaises raisons, mais deux raisons qui font que on laisse les audits un petit peu de côté. La première, c'est peut-être la très mauvaise raison. C'est que on demande l'audit, mais on est en même temps auditeur. Ça, c'est facile. Je vais regarder ce qui va bien dans ma vie et ce qui ne va pas, mais c'est moi qui juge de ces choses-là. C'est moi qui les examine, c'est moi qui les discerne, et c'est moi qui dis ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je connais une personne, elle fait tous les soirs son examen de conscience, et tout ce qu'elle a fait est parfait. Et elle le sait parce qu'elle est née rue de l'équité. Donc comme elle est née rue de l'équité, tout ce qu'elle fait est équitable. Bien. Et cet audit-là, elle sert à rien. Ça, c'est l'audit où, de toute façon, moi je suis parfait. De toute façon, moi il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est les autres qui sont les problèmes, mais moi, il n'y a pas de problème. Ce matin, si je suis dans cette situation-là, je suis en danger, mes amis, en grand danger, chrétiennement. Si je suis dans cette situation-là, l'amour de Dieu, la passion de Dieu, c'est quelque chose qui doit m'interpeller au changement. Je crois qu'à côté de ça, il y a une deuxième chose qui peut nous embêter un peu, faire repousser un peu l'audit, essayer de pas trop la faire dans notre vie. Elle est peut-être plus logique, elle est plus humble en tout cas. Vous savez que vous avez souvent pris des décisions, en tout cas moi j'en ai souvent prises, dans des domaines précis, et puis, ça revient. Peut-être différemment, je ne sais pas trop si c'est la même chose qu'avant, mais ça revient. C'est vrai, c'est ces conflits que vous avez avec l'orgueil, avec le manque de patience, avec le manque d'humilité, ces choses-là, vous pouvez les avoir présentées souvent devant le Seigneur et avoir pris de bonnes dispositions et puis, malheureusement, constater que je reste quand même le même dans ce domaine-là. Je reste quand même le même. Alors, petit à petit, là, on est sur un rail où on est enlisé dans une ornière et on se dit, ça sert plus à rien de vouloir demander le changement parce que, de toute façon, j'ai déjà essayé plusieurs fois et ça n'a rien donné. Je pense que pour le premier et le deuxième cas, il y a deux réponses bibliques qui sont vraiment encourageantes pour nous, qui nous encouragent à l'audit. La première bonne nouvelle, c'est que la Bible est l'auditeur suprême. L'auditeur suprême, mes amis. La Bible ne nous induira jamais en erreur. Viviane me racontait hier, elle a vu une émission où on parlait, c'était le début de la toxicologie. Et elle disait que, par exemple, avant qu'on ne découvre que le monoxyde de carbone tuait des gens, il y a eu des quantités de morts par asphyxie, parce qu'il y avait du monoxyde de carbone un peu partout, dans le gaz, dans les machines, dans les éclairages à l'époque. Et vous savez pas quoi? Elle me disait qu'il y a quantité d'hommes, de femmes, qui ont été condamnés du meurtre de leur femme ou de leur mari, et qui sont passés à la chaise électrique parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient morts avec le monoxyde de carbone. Parce qu'on croyait que c'est monsieur ou madame qui avait tué monsieur ou madame. Vous imaginez quand vous faites référence aux mauvais auditeurs? La parole de Dieu est l'auditeur suprême. J'aime l'image qui est faite et que nous lisons dans l'épître de Jacques. Je ne sais pas si je t'ai donné cette référence-là. Dans l'épître de Jacques, c'est vrai que, comme il est dit ici, Jacques nous fait cette association entre la parole de Dieu et un miroir. Un miroir. J'aime vraiment cette image. Et ici, dans le texte, donc Jacques dit que celui qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, il est comme cet individu qui se met devant le miroir, qui se regarde dans le miroir, mais qui, dès qu'il a détourné la tête, il a oublié ce qu'il a vu. La parole de Dieu est comme un miroir. Ou bien tu retiens l'image qu'elle te donne, ou bien tu es l'auditeur oublié, oublieux qui oublie, mais la parole de Dieu est comme un miroir. Elle est cette norme, ce fil à plomb. Hein, les maçons, ils utilisent le fil à plomb pour que le mur soit bien vertical. La parole de Dieu, elle est ce fil à plomb qui nous fait dire, oula, ça commence à brinque-baller dans les murs que tu construis de ta vie. Oula, ça commence à se tordre là. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La parole de Dieu est comme ça. La deuxième bonne nouvelle, c'est ce que nous venons encore de célébrer en partageant le pain et le vin. C'est sûr que nous avons été graciés, comme l'a rappelé Simon ce matin. Nous sommes purifiés de nos péchés, comme Simon l'a rappelé ce matin. Matthieu l'a rappelé ce matin, merci. Mais indépendamment de ça, nous recevons par la force de la résurrection cette poussée, ce désir, cette énergie pour changer. Parce que ce que Dieu a commencé en toi ou en moi, il veut l'amener à bonne fin. Parce que si moi, selon le miroir de la parole de Dieu, je veux changer, je veux prendre d'autres dispositions et d'autres décisions dans ma vie, Dieu le veut aussi. Et si Dieu veut quelque chose et que moi je veux quelque chose conformément à Dieu, c'est sûr que ça doit arriver à quelque chose qui va porter du fruit. Dieu n'est pas celui qui commence un truc dans ma vie et puis qui dit « Avec celui-là, ça n'ira jamais, poubelle !» C'est pas comme ça ce que Dieu commence. Il veut le mener à bonne fin avec moi. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, mes amis. Faisons des audits, des remises en question, parce que Dieu veut que nous changions selon sa volonté. J'aime l'image du miroir. Ah, vous savez, les miroirs, hein, on se regarde tous dans le miroir. Ça m'amuse toujours chez moi. Dans mon lieu de travail, quand on a refait les dents, souvent les femmes, hein, les dames, quand on a refait les dents de devant, ou qu'on a changé quelque chose, ou c'est toujours amusant parce que moi, quand j'ai le patient qui suit et que je me lave les mains, je regarde les patients qui partent, hein, ou la patiente qui part. Et je vois qu'elle monte dans sa voiture, elle met le miroir comme ça, elle s'y fait des grimaces, c'est quand elle prend fille, regarde de face, c'est différent, hein. Et ça m'amuse, je vois, elle me voit pas évidemment, mais moi je vois la personne qui se regarde dans le miroir. Le miroir, comme l'image utilisée ici dans la parole de Dieu, je trouve ça tellement, tellement approprié. Parce que le miroir, ça ne triche jamais. Il n'y a pas de triche dans un miroir. Ce que tu vois dans le miroir, c'est toi. Tu peux faire comme tu veux, le miroir, il va pas, sauf dans certains films, te dire t'es le plus beau du monde ou t'es la plus belle du monde. Non. Il te montre qui tu es. Et si t'es pas d'accord avec l'image que tu vois, tu peux le prendre le miroir, le casser par terre, tu te verras plus, mais ça change quand même pas ton image. C'est, le miroir, il triche pas. La parole de Dieu ne triche pas. Quand vous demandez à quelqu'un, et dit comment tu me vois? Il y a des choses qu'il va vous dire, il y a des choses qu'il va moduler, il y a des choses qu'il ne va pas vous dire. Et dire, ah, t'es malhonnête alors, quand tu parles avec les gens. Mais quand même, si nous faisons comme ça, on est obligé. Le miroir, il ne fait pas ça. Il te montre exactement ce qu'il doit te montrer. La parole de Dieu, c'est comme ça. C'est le miroir, l'auditeur, qui compare ce que tu es au fil à plomb, à la norme. Deuxième élément qui m'intéresse dans l'image qui est faite avec le miroir, c'est que le miroir, c'est un média. C'est quelque chose qui te parle mieux que la télévision, ou mieux que la radio, ou mieux que ce que l'autre te dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes devant votre miroir, que vous vous levez le matin, que vous avez les cheveux tout en pétard et la tête bizarre, vous vous dites « Quelle tête !» Le miroir, il n'y a personne qui vous le dit, mais le miroir, il vous parle, il vous le dit. Quand tu n'es pas rasé, il te dit « T'es mal rasé !» Quand tu commences à avoir les cheveux, là, les racines des cheveux qui reprennent le blanc, il dit aux femmes « Il est temps de faire la teinture !» Le miroir, il te parle. D'ailleurs, si vous avez remarqué, Jésus utilise souvent dans les paraboles un petit peu l'image en miroir sur les gens. Il fait un peu dans ses paroles comme avec un miroir. Il attire les gens vers une image, une illustration, et puis au moment voulu, les gens comprennent que ça, c'est leur reflet. Hein, c'est un peu comme le prophète Nathan avait fait quand il est venu trouver David en lui disant « Mais qu'est-ce que tu penses de celui qui a toutes les richesses du monde et qui va prendre la vigne de ce petit malheureux qui est là à côté ?»« Oh, c'est dégoûtant, dit David, c'est monstrueux, il faut le condamner !» Et puis petit à petit, il va l'amener à lui faire comprendre que c'est lui qu'il voit dans le miroir. Le miroir, il nous parle. Troisième élément qui me paraît vraiment tellement révélateur dans cette comparaison qui est faite, celui qui écoute la parole de Dieu, il se voit tel qu'il est dans le miroir et il agit. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il fait comme s'il s'était vu et qu'il se détourne. La parole de Dieu ou le miroir, il te pousse à l'action. Quand tu as vu que tu n'es pas bien rasé dans le miroir, tu te rases. Quand tu as vu que tu n'es pas bien coiffé, tu te coiffes. Quand tu as vu que tu as un bouton sur le nez, tu mets la pommade. Le miroir te parle directement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que... Est-ce que vous parlez devant le miroir? Non? Oui? Non? Ah, moi, je me parle devant le miroir. Hein? Moi, j'ai ce truc, je me parle devant le miroir. Ça, c'est vrai. Hein? En fait, finalement, c'est le seul endroit où je me vois dans les yeux. Sinon, je ne me vois jamais dans les yeux. Là, bien, et je peux me parler. Et je peux dire... C'est pas vrai. T'as vu le bide que t'as attrapé, mais non. T'es plus du tout comme il y a 20 ans. Je me parle devant le miroir et il me fait agir. C'est devant le miroir que je dis, mais non, écoute, ça peut plus durer, quoi. Faut changer, faut faire quelque chose. Le miroir te pousse à l'action. La parole de Dieu, l'auditeur suprême, non seulement il est la norme, non seulement il est le média qui te dit les choses que personne ne va te dire dans la vérité qu'elle te le dit. Et troisièmement, la parole de Dieu, et te pousse à l'action. Elle est celle qui te pousse à l'action. Audit personnel, miroir. Je voudrais qu'en, avec cette démarche-là, on analyse maintenant cette parole du Seigneur qui disait tout à l'heure, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Souvenez-vous de la femme de Lot. On va lire ce passage parce que peut-être qu'on connaît ce passage, peut-être qu'on a oublié beaucoup de détails, et peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Donc, on va le lire. Bon, c'est un peu long, mais c'est toute une histoire, donc c'est facile à lire. On va lire ça dans Genèse 19-23. Je vous le lis alors, ou tu le trouves facilement? C'est dans le livre de Genèse, hein. 19-23.
Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au rendez-vous et se prosterna devant son maître. Oui, lui dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Tant, répondit-il, nous passerons la nuit dans la nuit. Et Lot les pressa tellement. Il va chez lui et entraîne dans sa maison. Il donna un festin d'épicuire des pains sans le vin et il mangeait.
Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y en avait encore un normalement. La femme de Lot se retourna, elle fut transformée en statue de sel. Une histoire horrible. Hein. On en parlait avec Monique et Jean-Paul l'autre jour. On n'osera plus montrer l'Ancien Testament à nos contemporains, évidemment. Hein, des histoires pareilles, on se dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Une histoire terrible. Qui était la femme de Lot? J'ai envie de dire une femme extrêmement privilégiée, en tout cas spirituellement, dans une relation possible avec Dieu, une femme privilégiée. Son mari était un homme juste, un homme pieux. Ainsi, vous lisez dans la deuxième épître de Pierre, il y a un verset là qui nous dit que Lot habitait au milieu des gens qui s'en conduisaient n'importe comment, mais lui-même, c'était un homme juste. Il était très triste à cause de la conduite des sodomites. C'était un homme juste. Cette femme, elle était privilégiée quelque part parce qu'elle vivait dans un environnement avec un homme juste qui avait le cœur droit. Et j'imagine que dans ses comportements avec elle, il avait aussi le cœur juste et le cœur droit. C'est une femme privilégiée parce que vous vous souvenez, elle connaissait très bien Abraham quand même. C'était quand même l'oncle de son mari. Hein, à cette époque-là, les liens familiaux, les rencontres familiales, c'est quand même des choses courantes. Elle connaissait très bien Abraham. Elle connaissait le Dieu d'Abraham. Abraham, le père de tous les croyants. La femme de Lot, elle avait vécu dans l'intimité comme ça avec cet homme-là. C'était une femme privilégiée parce que, souvenez-vous, elle a même été libérée par la puissance glorieuse de Dieu au travers, en utilisant la main d'Abraham. Vous vous souvenez, il y avait eu une bagarre avec des petits roitelets et hop, tous les gens de Sodome, ils ont été amenés et la famille de Lot. Et Abraham, il part avec des hommes, il va libérer Lot et sa famille. Elle a vécu ces épisodes-là. Elle a connu la puissance libératrice de Dieu. Elle a connu qu'Abraham, aidé de Dieu, vient les libérer, leur rendre la liberté. Elle a connu ces choses. C'est une femme privilégiée. Et c'est une femme qui a tout vu. Hein? Elle a vu les anges qui sont arrivés chez eux, qui venaient, comme dans le texte qu'on a lu, pour les libérer, les faire échapper au tourment, à la destruction. Elle a vu ça. Elle a vu que ces gens là-bas de Sodome, finalement, ils les méprisaient, ils les détestaient. Et vous, sales étrangers, on va vous faire encore plus qu'aux autres. C'est ce qu'ils disent quand ils viennent. Elle a vu que son mari est presque mort à cause des sodomites. Hein, si les anges n'avaient pas ouvert la porte pour le rattraper et rendre tout le monde aveugle, on ne sait pas ce qui lui serait arrivé. On va te faire plus de mal encore qu'aux autres. Elle a vu tout ça. Elle a vu l'amour des sodomites pour sa famille, pour son mari. Qu'est-ce qui perd la femme de Lot dans l'histoire qui nous a été rapportée? Pendant un certain temps, elle suit son mari. Elle est presque forcée, quelque part. Vous avez vu, les anges, ils les prennent par la main, ils les tirent. C'est vraiment le salut par la grâce, le salut miraculeux. Ils les prennent par la main, ils les tirent. Et elle suit son mari jusqu'à un certain point. Elle imite son mari jusqu'à un certain point. Mais elle n'a pas le cœur juste comme son mari. Elle n'a pas l'amour de Dieu. Elle n'a pas la passion de Dieu. En cours de route, on lui a dit, te retourne pas. Et au moment où le feu du ciel, le soufre du ciel, démolit toute une ville, à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est se retourner. Au lieu de glorifier Dieu, quoi, de se rendre compte, mais mince, voilà où j'aurais pu être, voilà ce qui arrive, quelle grâce, merci Seigneur, merci mon Dieu. Non, au lieu de ça, elle se retourne. Et elle est transformée en statue de sel. En fait, à ce moment-là, la femme de Lot, elle est vraiment, vous savez, à ce point de jonction entre la perte et le salut. Elle est vraiment là. Le salut lui a donné la main. Mais elle, elle lui tourne le dos. Elle se retourne, elle est changée en statue de sel. On peut, quand on lit ces choses-là, hein, j'entends les réactions, quel Dieu, oh, quelle violence, oh, quelle colère, allez, parce qu'elle retourne la tête, quoi. Elle retourne la tête, paf, une statue en sel, mince, c'est ça le Dieu de la Bible, c'est ça le Dieu des croyances, c'est ça le Dieu de l'amour. Mes amis, je crois que ça nous donne une leçon, ça. Ça nous donne vraiment une leçon. Parce que si nous sommes choqués par le fait que, en se retournant et en désobéissant, elle est mise au banc des sodomites et elle est transformée en statue de pierre, nous avons un problème, je crois. On a un problème quant à ce qui se fait avec Dieu ou ce qui ne se fait pas. Et je pense qu'on a souvent ce problème. Il y a les grandes choses qu'on ne peut pas faire avec Dieu ou contre Dieu. Il y a les grandes choses, mais les petites choses. Là où je mets ma tête une fois par là, ou ma tête une fois par là, là où je touche une fois ceci, et où je fais une fois cela, ça c'est quand même pas grave, hein. Ça c'est quand même pas grave. Ici, le texte nous rappelle que devant Dieu, il y a soit, comme on a entendu dans le témoignage de ce matin, soit écouter, entendre, faire ce que Dieu veut, ou bien tourner le dos. Ici, la femme de Lot, ça peut paraître terrible qu'elle soit transformée simplement parce qu'elle a tourné sa tête. Mais en réalité, le regard de cette femme vers l'arrière témoigne de son appartenance aux sodomites. Elle a peut-être eu l'apparence d'une femme pieuse. Elle a peut-être vécu avec un mari qui était juste, qui était pieux. Elle a peut-être donné l'image d'une femme qui connaissait certaines choses de Dieu. Mais en réalité, son cœur regrettait Sodome. Son cœur avait envie de la vie à Sodome. Son cœur regrettait de rester en présence des sodomites. La fin de cette femme. Elle se retourna, puis transformée en statue de sel. La fin. savez, dans les églises, quand il y a un chrétien, une chrétienne qui vient décéder et puis qu'on fait un enterrement, on profite en général de cette occasion avec la famille. On est d'accord qu'on va essayer de faire de ce temps un temps d'évangélisation. Parce que la personne qui est morte, elle a rencontré le Seigneur, elle est là maintenant auprès de son Sauveur, et on veut faire utiliser ce temps-là pour faire un témoignage d'évangélisation. Mais vous savez aussi qu'on a beaucoup de gens dans notre entourage, des amis, de la famille, des proches, auxquels on a parlé de Dieu et qu'on sait qu'ils n'ont jamais vraiment décidé. Alors on est un peu mal dans ces situations-là. Alors on entend souvent, hein, on se donne bonne conscience et on se rassure en disant « Ouais, mais tu sais, jusqu'à la dernière seconde, sur ton lit de mort, tu peux te tourner vers le Seigneur et tu peux te convertir. Tu sais jamais ce qui s'est passé dans le cœur des autres. » Bien évidemment, heureusement. Et merci si on peut se rassurer comme ça, c'est bien. Dans l'histoire que nous venons de lire ici, pas question de se rassurer. C'est dommage. Mais c'est fini. Je pense que on fait pas. Je vais pas encore me tromper là, mais je pense qu'on peut affirmer que la femme de Lot, elle est perdue et elle est perdue pour toujours. Et elle ne rencontrera jamais la présence de Dieu. Et depuis qu'elle est perdue, elle est encore perdue et elle le sera pour tout le temps, selon ce que nous dit la parole, cette vie future qui se fait en présence de Dieu ou qui se fait sans Dieu. Cela doit nous rappeler ce matin encore que ce miroir, cette parole de Dieu, ne ment jamais et que cette parole dit qu'elle offre le salut si tu l'acceptes, mais que si tu te retournes, que tu donnes ton dos à Dieu et que tu restes tourné vers ta vie et ce que toi tu veux, c'est ton choix et là t'es perdu. C'est brutal comme illustration. Mais c'est une réalité qui doit nous interpeller. Il ne faut pas l'adoucir, il ne faut pas la caraméliser. Elle est comme ça. Revenons à notre audit, si vous voulez bien. Notre examen. Il se peut, moi aussi, on a entendu. Jean a dit, je suis tombé dans la soupe quand j'étais petit, j'étais dans un milieu chrétien, mais bon, un bon bobo, il a fallu que... Peut-être tu es ici régulièrement, peut-être tu es né dans une famille chrétienne, peut-être tu n'es pas né dans une famille chrétienne, peut-être que tu connais beaucoup de chrétiens, peut-être vous les jeunes, c'est chouette parce que justement vous êtes dans des groupes comme JV ou vous faites des camps chrétiens, c'est bien. Et peut-être que si on vous le demande, vous dites, oui, moi je suis chrétien. Peut-être que vous êtes croyant comme la femme de l'autre, peut-être. Et finalement, vous êtes croyant comme ça, peut-être je suis croyant comme ça. Et finalement, quand je vois la part d'amour pour Dieu dans ma vie, ou de passion pour Dieu dans ma vie, qu'est-ce que ça représente par rapport à toutes mes attaches précieuses du monde, des sodomites ou des mondites? Quel temps représente ma passion pour Dieu dans ma vie, que ce soit dans mes rencontres avec Dieu, dans mon écoute de Dieu, dans ma prière avec Dieu, dans ma louange à Dieu, dans mon regard sur ma vie avec Dieu. Quel est le temps consacré à ça? Peut-être il est temps de faire cet audit. Peut-être il est urgent de faire cet audit. Peut-être que Je sais qu'un jour le Seigneur va revenir. Mais bon, pas trop vite, hein. Le plus tard possible. Peut-être que je sais que quand le Seigneur revient, je dois être d'une certaine manière, avoir fait certains choix. Mais finalement, ce sera toujours temps de les faire à ce moment-là, hein. Il y en a tant qui sont changés de bord sur leur lit de mort. Ce sera toujours temps de faire à ce moment-là, hein. Peut-être. Peut-être que ici, le matin, il m'est facile de critiquer le monde, de dire dans le monde ceci, dans le monde cela, et nous, chrétiens, avec le Christ. Peut-être qu'il m'est facile de faire tout ça, mais que finalement, je suis profondément enraciné dans tout ce qui est dans le monde. Le monde est monstrueux, mais finalement, je m'y sens tellement bien, tellement bien. Peut-être. Le texte que nous avons lu à l'introduction avec ce long discours que Jésus fait à propos de son retour, eh bien, ce texte-là, il nous rappelle véritablement que les temps s'approchent. Je ne sais pas si ça nous concerne directement à nous, si ça concerne vous, les jeunes, mais je pense vraiment que quand on lit, on entend tout ce qui est accompli, tout ce qui est sur le point de s'accomplir, les temps sont plus avancés qu'on ne pense. Et peut-être que vraiment, cette expression, mes amis, souvenons-nous de la femme de Lot, prend toute son importance. Alors ce matin, je vous invite à rentrer chez vous et si vous faites partie de ceux qui sont sûrs que l'audit est positif, méfiez-vous. Les autres qui connaissent un peu le résultat de l'audit, réexaminez-vous devant le miroir de Dieu, devant le fil à plomb. Laissez-vous de nouveau inciter, passer à l'action. Comme j'ai vraiment aimé cette phrase de Laure, chaque jour de ma vie pour Dieu, chaque jour de ma vie avec Dieu. Si nous voulons vivre ce qu'on a dit, l'amour de Dieu, la passion de Dieu, mettons-nous devant le miroir, regardons, écoutons et agissons. Que Dieu nous conduise sur cette voie, parce que c'est là où il veut nous mener. Amen.